Radio Cassis, grand témoin. C'est l'une des femmes les plus célèbres de la République démocratique du Congo. Femme politique, femme d'affaires et mère de famille, Catherine Zouzi Wambombo, est celle que grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Madame Catherine Zouzi Wambombo, merci de nous recevoir chez vous. Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de votre parcours politique, de votre expérience politique. Vous nous direz aussi si vous êtes toujours dans la politique ou si vous l'avez abandonnée, parce que depuis votre échec de 2006, on ne vous entend plus, on ne vous sent plus sur la scène politique congolaise. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une petite biographie de vous. Ensuite, vous êtes né un certain 19 décembre 1944 à Kimbe-Sainte-Marie. Je parie que c'est dans la province du Kassai occidental.
Il paraît, oui.
Madame Catherine Zouzi Wambombo, vous avez commencé la politique très jeune. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique?
J'ai évolué dans le milieu politique dans mon jeune âge. Je viens d'une famille de politiciens. J'ai vécu à côté de mon père qui était politicien avant l'indépendance. Ça m'a permis d'avoir le coup de faire la politique.
Le fait que votre père soit bourgmestre, cela a eu un impact sur votre vie politique.
Tout à fait, je le voyais travailler et lui-même me citait et me disait toujours que c'est pas parce que je suis un homme que je fais ce que je fais. Si toi aussi plus tard tu as envie de faire ce que je fais, tu arriveras à le faire. Alors ça restait dans ma tête. Voilà.
Votre mère aussi vous a encouragé à faire ça?
Elle m'a encouragé parce qu'elle m'a été directrice de la FHPR. Donc on a toujours été un procureur dans notre famille.
Madame Catherine Tinzobombo, votre nom a fait parler de lui beaucoup plus pendant la Deuxième République. Vous avez occupé beaucoup de fonctions politiques. Vous avez commencé par être bourgmestre de la commune de Kalina, actuellement commune de la Gombe. Vous aviez 22 ans lorsque vous avez été nommé bourgmestre de cette commune. C'était facile pour vous de gérer cette commune, en ce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui habitaient cette commune?
Je sais que c'est l'homme qui doit donner la valeur à une fonction. Lorsqu'on est engagé, lorsqu'on veut arriver, on va puiser dans la nature les ressources nécessaires pour ne pas être débordé, par le travail et surtout pour apprendre. Et souvent, ce qu'on apprend soi-même, ça reste. Donc, c'est un problème de volonté, volonté d'arriver, volonté d'apprendre, volonté de connaître, volonté de ne pas être dépassé, qu'on ne dise pas parce qu'elle est femme. Donc, si vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez, vous pouvez aussi arriver à un meilleur résultat comme je l'ai fait.
Ben, deux ans, c'était pas trop tôt pour vous, pour ce genre de poste?
Ce n'était pas très tôt parce que moi, nous avons opté pour faire la politique. C'était un cheminement. Mon frère, Aziz Emmanuel, quand il a été exécuté à Bakonga parmi le martyr, le fidèle de Lumumba, il avait 23 ans. Donc, disons que ça fait partie de un peu de notre famille. On a commencé très tôt à entreprendre, à être curieux, à aimer la politique très jeune. Donc, il n'y a pas un âge pour apprendre et entreprendre.
Vous aviez rencontré des difficultés à cette époque pour gérer la commune de la Gombe?
Bien sûr, des difficultés, il y en avait, parce que d'abord, c'était la première fois de voir une femme en train de faire ce qu'on faisait. Bon, il y avait la méfiance, mais du tout, comment il se permet de nommer des femmes, si une femme peut travailler, une femme sa place, c'est à la cuisine, sa place, c'est faire les enfants. Voilà que lui veut donner maintenant la femme de jouer un autre rôle, est-ce que ça va dans sa tête? Bon, bref, il fallait relever le défi et démontrer que être un homme ou être une femme, le sexe n'a rien à voir dans les aptitudes physiques, dans l'engagement qu'on a pour servir son pays. Ça n'a rien à voir, c'est un problème de volonté, de détermination, voilà.
Qu'est-ce qui avait poussé le maréchal Mobutu à pouvoir propulser les femmes, à les placer à des postes de prise de décision? Qu'est-ce qui avait milité?
Parce que lui-même était persuadé que pour construire les Zaïre, il fallait l'engagement des hommes et des femmes. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas apporter sa contribution à l'œuvre de l'édification du pays, à l'œuvre de la reconstruction du pays. D'ailleurs, tout au long de notre vie, les femmes sont toujours engagées dans ce qu'elles font. Aujourd'hui, à tout ça, les trois quarts de ménage sont tenus par les femmes. Ça, on ne peut pas démentir. sont les femmes qui se lèvent tôt, qui vont faire le petit boulot là-bas du bongo ou bien au marché pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, il avait été bien inspiré. Lui-même, il a été élevé par une femme. Son père était décédé quand il était très jeune. Et il avait compris que, voilà, à mon âge, je suis arrivé à cet exercice. J'ai été élevé par une femme, pourquoi est-ce que je ne peux pas associer les femmes à ce que je suis en train de faire? Et là, il s'est pris.
De la commune de Kalina, vous avez été nommé inspectrice d'État. Ça équivaut à quoi aujourd'hui?
Il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui. Disons que les inspecteurs d'État, leur rôle, c'était de faire les instructions dans les provinces pour voir si les directives du ministère de l'Intérieur étaient respectées par le gouverneur. Donc, on avait à gérer six provinces. Il y avait l'inspecteur pour la zone A, la zone B, qui comprenait la province du Katanga, les deux Kassai, le Kater, le Kisasa et le Bandundu. Donc, c'était une meilleure façon de connaître ce qui se passe en province au lieu que le ministre de l'Intérieur attende le rapport dans son bureau. On avait préféré mettre en place cette organisation pour permettre à l'autorité d'être au fait des choses en organisant les inspections.
C'était une promotion?
Il paraît, oui.
Il paraît, oui, c'est ça.
Il paraît.
Après l'inspection, on vous nomme gouverneur dans la province du Bas-Congo. Il y a même un marché dans la ville de Matadi qui porte votre nom. Comment vous avez fait pour que la population de là puisse vous adopter, puisse vous accepter?
Je suis congolaise. Vous savez, mon bout de Congolais, mon Congolais, mon frère, il avait réussi à inculper aux Congolais le sentiment nationaliste qui est incroyable. À aucun moment, pendant tout mon séjour dans le Bas-Congo, je me suis senti orphelin. J'ai été adoptée comme fille du coin et j'étais en bonne intelligence avec la population. Donc, je pense que c'était ma manière de servir le pays qui les a plu. Je ne peux pas dire plus.
Est-ce que c'était une bonne politique de nommer des non-originaires dans certaines provinces pour les gérer?
Ça, c'est sûr, parce que quand on est non-originaire, vous n'allez pas participer au conflit interethnique qui peut surgir dans une province. Vous pouvez trancher le conflit d'une manière en gardant une certaine neutralité. Ce qui est difficile de faire lorsqu'on est originaire d'une province. Moi, je crois que la politique des non-originaires a beaucoup porté et a beaucoup servi le pays. Je prends l'exemple de quelques personnalités. Il est de l'Équateur, il était au Katanga, mais il est né et apprécié au Katanga. Je prends le cas du gouverneur Konde Villa Kikanda, qui était à Goma là-bas dans le nord, qui est né et apprécié là-bas. Je prends le cas du gouverneur Mukamba Kadatanzema à l'Équateur, et moi-même dans le Bas-Congo. Bref, moi je pense que si on avait continué avec cette politique de non-originaire, ça pouvait plus servir le pays qu'autre chose.
Auriez-vous continué avec cette politique si vous étiez au pouvoir aujourd'hui?
Je crois, je n'hésiterai pas.
Après le Bas-Congo, vous êtes nommé vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, puis gouverneur. Comment vos partenaires hommes ont vécu cela? Est-ce que c'était facile pour vous?
Non, j'ai été nommé vice-gouverneur de la ville de Kinshasa avant d'être nommé gouverneur au Bas-Congo. Et en ce moment, ça s'appelait la province du Congo central. Vous savez, le tout dépend de votre conviction, parce que les hommes ont besoin d'être convaincus. Ils sont convaincus par vos aptitudes physiques, par votre manière de servir, par votre manière de vous comporter. Et si vous vous comportez normalement, si vous servez votre pays avec beaucoup de compétences, je ne vois pas pourquoi. En tout cas, moi, je n'ai jamais souffert de ce complexe-là d'être considéré parce que femme. Je n'ai jamais eu un traitement discriminatoire, par exemple. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la plupart de mes amis sont les hommes. Ils me le rendent bien. Et quand on est ensemble, nous parlons des problèmes d'État, ou ceux qui sont dans les affaires, nous parlons des problèmes d'affaires, et bien ce sont complexes. On ne fait pas allusion parce que homme ou femme, non, nous avons dépassé ce stade-là, on se retrouve pour parler Le problème du pays, eh bien, on va parler du problème du pays, on va échanger. Si dans le cadre de l'organisation, on va parler du cadre des affaires, des opportunités à exploiter éventuellement, des difficultés qu'on raconte éventuellement, on échange. Donc, on a besoin de convaincre. Lorsque vous arrivez à le faire par vos attitudes professionnelles, je pense que vous n'allez pas être, vous n'allez pas avoir de problème. En tout cas, moi, je ne les ai pas rencontrés.
Vous avez réussi à convaincre?
Je pense, sinon je ne pouvais pas occuper toutes ces fonctions.
Alors, le vice-gouverneur, gouverneur, est-ce qu'il y a eu une action particulière que vous avez menée pour qu'on puisse vous nommer gouverneur? Ou c'est parce que vous étiez femme et qu'il fallait propulser les femmes à cette époque-là?
Le président Mobutu était un homme très exigeant. Je pense que diriger une province, ce n'est plus un peu pas faire de nomination de complaisance. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes responsable au plan de l'armée, au plan de l'administration. C'est vous le numéro un de la province. Donc, je ne pense pas que si je ne l'avais pas convaincu par mes attitudes professionnelles qu'il l'aurait fait. C'était un homme très exigeant dans le. D'ailleurs, si vous regardez le parcours de tous les grands qui ont dirigé ce pays, ce sont des grands messieurs. Vous ne trouverez pas de bignol. Donc, je pense que c'est.
C'est la compétence qui comptait.
Ah oui, la compétence, rien que la compétence.
Alors, à votre époque, qu'est-ce qu'il y avait aussi des gouvernements provinciaux?
À notre époque, il y avait le gouvernement provincial, mais c'était comme c'était à l'époque du parti État. Le gouverneur de province était en même temps président provincial du MPR. Parce que le parti était la nation générale organisée politiquement. Comme vous le savez, le parti unique n'était pas la panace seulement de la République du Zaïre. On retrouvait le parti unique dans tous les pays africains. Donc ici, chez nous aussi, comme c'était le parti éteint, le chef de parti en province était en même temps responsable de province au plan administratif.
Vous, en tant que gouverneur de la province de Kinshasa à cette époque-là, comment vous êtes arrivé à gérer une si grande province comme celle de Kinshasa?
C'était facile pour moi parce que j'ai commencé par la base. La territoriale, lorsque vous commencez, si vous n'êtes pas enrichi, vous avez à ce moment-là la meilleure façon. Vous avez accumulé l'expérience pour pouvoir diriger la ville. Vous vous appuyez sur le bourgmestre qui normalement devrait être itinérant dans le quartier pour qu'on ne puisse pas avoir le type de immondices qu'on voit aujourd'hui. Le bourgmestre, chaque bourgmestre devient être plus faire l'itinérance dans sa commune pour connaître ce qui se passe. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec ça, on voit que le bourgmestre s'occupe plus des problèmes de taxes municipaux. Vous avez les marchés pirates partout. Si vous allez, par exemple, dans la commune de Kinshasa, c'est une commune qui est vraiment sacrifiée. Les avenues comme Kato, Itaga, Kigoma, mais ce sont des avenues qui n'existent pratiquement pas. Mais si c'est comme ça, à Kinshasa, je me demande à l'intérieur comment ça se passe. La territoriale, c'est un métier noble. Lorsque ceux qui la dirigent, ceux qui s'occupent de la territoriale, acceptent de faire l'itinérance. Vous ne pouvez pas diriger une province en restant tout le temps dans votre bureau. Que vous soyez gouverneur, que vous soyez gouverneur, vous devez être sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Et cela appuyé par le chef de quartier, qui représente l'autorité municipale dans la commune. Mais aujourd'hui, le chef de quartier s'occupe seulement pour faire la cotisation lorsqu'il y a des deuils, mais ne font pas correctement leur travail, c'est dommage. Parce que la territoriale, c'est un corps qui est bien organisé, qui est bien structuré. Et lorsque tout le monde pouvait se donner la peine de faire correctement les tâches, je pense qu'on ne peut pas avoir le spectacle que nous avons aujourd'hui.
Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Est-ce que la population, quelque part, n'est pas aussi responsable?
Bon, la responsabilité est partagée, mais moi, je pense que vous, les hommes des médias, en commençant par vous, vous avez la plus grande responsabilité de former. Former et former par les émissions éducatives. Or, si vous parcourez la plupart des scènes aujourd'hui, la danse a ses deux places à la formation. Former la population, nous avons un grand problème d'insalubrité à Kinshasa. Et l'insalubrité n'est que la seule façon de combattre l'insalubrité, c'est la propreté. Que les caniveaux soient régulièrement tirés, que puisqu'on sort des caniveaux soient directement évacués vers le centre de là où on doit jeter les immondices. Il faut éduquer la population, mais à notre époque, nous avions un service de l'hygiène qui devait passer dans le passé pour voir si vous n'avez pas, laissé les boîtes traîner, parce qu'en cas de pluie, mais ce sont des nids les nids pour les moustiques. Si vous allez dans les hôpitaux, les maladies qui emportent plus maintenant, c'est la malaria. C'est une maladie qui au départ peut sembler minime, mais si elle devient célébrale, vous pouvez en mourir. Donc l'unique moyen de combattre cela, c'est la propreté. Alors il faut éduquer la population, il faut que la population sache que si moi je dois être propre dans ma parcelle, si le voisin est propre, etc., c'est toute la vie qui sera propre. Donc c'est une responsabilité partagée des gouvernants et des administrés.
Parlant du bureau politique du MPR, vous avez été vice-présidente du bureau politique, c'est l'équivalent de vice-présidente de la République, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous avez gradué les échelons comme une fusée, c'est toujours grâce à votre compétence et savoir-faire.
Absolument.
Comment ça, moi, de voir?
Alors, dans ce cas-là, il m'est difficile de répondre à cette question moi-même. Je vous ai dit que le président Mobutu était un homme très rigoureux et très, très exigeant au plan professionnel. Je ne pense pas qu'il avait l'habitude de nommer de Guinée.
Après le discours présidentiel du 24 avril 1990, annonçant le retour au pluralisme politique, l'Imper s'est privé, succède au parti État. Vous étiez à la tête de ce parti, vous êtes même présenté aux élections de 2006 comme candidate à l'élection présidentielle. Malheureusement, ça n'a pas marché pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez que se présenter à l'élection présidentielle, d'abord, c'est un problème de moyens. Moi, j'avais l'obligation de le faire pour montrer que je ne faisais pas la politique par amateurisme ou bien par fantaisie. Vous savez très bien que je n'avais pas les moyens de parcourir ce pays qui est aussi grand que le continent. Mais en tant que femme, avec le parcours qui fut le mien, je devais montrer de quoi j'étais capable. Je devais défendre mon projet de société, je devais défendre mes idées, je devais montrer aux Congolais que je ne suis pas là comme figurant, et que je suis là parce que je me sens capable de servir mon pays et pourquoi pas de le diriger. Donc, c'est ça, je ne regrette pas de l'avoir fait. Hier, j'ai dirigé l'Inter pendant 15 ans, au moment où la situation était très difficile, mais j'ai décidé moi-même de favoriser l'alternance à la tête de ce parti pour m'occuper un peu de mes affaires, parce que ma société, nous avons été pillés deux fois. Les pièges de 91 et de 93 nous ont beaucoup fragilisés, alors il fallait faire un choix, surtout que nous sommes dans une année électorale. Je me suis dit l'année passée, j'ai pris cette décision l'année passée, ce n'était pas une décision facile, pas du tout. J'ai dit l'année prochaine, ce sera une année électorale. Et la décision que j'ai prise de pouvoir m'occuper un peu de mes affaires pour les relever, aurais-je le temps de cumuler les deux? J'ai dit non. Je suis tout le temps en voyage pour contacter les fournisseurs, etc., etc. La responsabilité m'oblige à pouvoir céder la présidence pour que je puisse m'occuper de ça. Les militants, il y en a qui ont très mal accueilli la chose, mais je leur ai dit que, écoutez, la politique, c'est un travail, c'est un métier qui vous exige beaucoup. Si vous n'avez pas le minimum pour pouvoir faire ce que vous devez faire, aussi, là, ça ne va pas. Dès les débouchages, la plupart des débouchages que nous voyons, souvent, c'est dicté par les problèmes de moyens. Comme je n'ai pas envie d'être déboussée.
Madame Catherine Boussamboussi, je vous comprends bien. En 2006, si ça n'a pas marché, c'était un problème de moyens, d'abord.
Bien sûr, mais écoutez, pour être président de la République, ça vous demande d'abord de parcourir ce territoire qui est aussi grand que le continent. Il faut avoir le moyen de le faire. Ça, c'est vrai. Je ne pense pas que nous, les femmes, nous ayons ce moyen-là. Je suis sûre que si j'avais le moyen de le faire,
et après 2006, il y a eu beaucoup de départs quand même au sein du parti. On dit que vous n'avez pas su gérer le parti. Vous étiez beaucoup plus, vous vous occupiez beaucoup plus de vos affaires privées que du parti.
Mais si je ne m'occupe pas de mes affaires, le parti pouvait être dirigé comment? Vous savez très bien que dans dans nos pays, on n'a pas le sens de cotisation. Tout le poids financier, il le sait. C'est une charge qui est laissée au président. Si vous n'avez pas les moyens, vous pensez qu'un parti comme le MPR, pendant 15 ans, vous pouvez le diriger. Si vous n'avez pas les moyens, j'aimerais bien le voir. Et que ceux qui sont partis, ils sont partis à la recherche. À la recherche des avantages que je n'avais pas à leur offrir. Dans l'opposition, on n'a pas les moyens que ceux qui gouvernent ont. Donc, ça ne doit pas étonner. Si les gens étaient partis pour s'occuper des affaires personnelles, là, on peut dire que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion et que les gens étaient partis. Mais si les gens partent pour aller adhérer dans un état qui a le moyen, on devait comprendre qu'on est à la recherche du matériel.
Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec vos anciens collègues du MPR à l'époque du maréchal?
Je me sens très bien, ceux qui sont partis dont vous parlez, je n'ai aucun avec qui je ne parle pas. Nous avons gardé de très bons rapports. Ce n'est pas une affaire personnelle. Si vous n'avez pas le moyen de donner à la personne ce qu'il veut, vous n'allez pas l'empêcher de se faire. Donc, il faut être conséquent de soi-même.
Donc, en fait, vous n'êtes plus active dans la politique, vous vous occupez maintenant de vos affaires privées.
Dire ce que je n'ai pas dit, je suis active parce que j'aime la politique, je resterai femme politique. Je ne peux pas abandonner la politique après 44 ans de vie politique. Mais je ne m'occupe plus de la présidence du MPR. Mais m'occuper de la politique, si je ne le faisais pas, tu ne serais pas venu m'interroger des vieux.
Même plus active comme avant, c'est ça. Alors, vous êtes femme d'affaires, madame Catherine Djouzi Wamombo. Vous avez investi dans quoi?
Mais j'ai fait beaucoup de choses, hein.
Alors, beaucoup d'investisseurs congolais se plaignent du fait que le gouvernement ne leur facilite pas la tâche. Vous êtes d'avis, madame Catherine Djouzi Wamombo?
Je suis d'avis parce que, tu vois, aujourd'hui, à l'époque, lorsqu'on allait à la maison, on avait beaucoup d'hommes d'affaires congolais, zaïrois, qui ont senti que l'économie était entre les mains des zaïrois congolais aujourd'hui. On avait de grands hommes d'affaires, comme de Lusakivana, comme le Tissonde, comme le Dokolo, comme le Dangwele, comme le Ndemba, comme le Kimbelo, ils étaient nombreux. Mais aujourd'hui, il y a qui? C'est ça le problème. Le problème qui tue la classe moyenne congolaise, c'est un problème de moyens. Pour pouvoir évoluer en affaires, je pense qu'on ne peut pas se passer, de banque. Le taux d'intérêt qui est aujourd'hui utilisé dans le secteur bancaire sur la place de Kinshasa, c'est un taux suicidaire. Et vous avez les étrangers qui vont dans leur pays, qui vont contracter les crédits à un taux d'intérêt, par exemple, de 3 ou 4%, qui viennent ici, qui amènent cet argent ici pour faire les affaires, par rapport à nous qui avons un taux d'intérêt allant jusqu'au-delà de 20%. On ne sera jamais à armes égales. Et l'État devait comprendre ça. Parce qu'on aime bien, les étrangers, mais il faut quand même que l'État comprennent qu'il a intérêt à ce qu'on puisse trouver aussi qu'il y a une classe moyenne congolaise qui s'occupe de l'économie de son pays. Pas seulement à ce niveau-là. Vous allez même tous les emplois. Pourtant, il y a une loi qui protège la main-d'œuvre nationale. Par exemple, si les étrangers viennent ici, ils doivent s'investir dans les activités de production. Mais ici, vous allez trouver des hommes d'affaires étrangers qui ont des boutiques, et vous allez trouver même jusqu'au niveau du magasinier, c'est un étranger. Et les Congolais vont faire quoi? Tout cela, on se pense qu'il y a beaucoup de chômeurs. On devrait quand même respecter cela. J'ai suivi sur une télévision hier, ça m'a fait de la peine, une émission sur les gens qui sont sur le plateau vers Lac de Mavalé. Il y a là-bas les gens qui font les plaques-bandes de légumes, de céleri, de poireaux, etc. Ils disent qu'il y a une société qui est là, qui vend des fientes de poules. Ils vont acheter des fientes comme signées pour venir mettre dans leur plaques-bandes de légumes. Et il semblerait que cette société-là vient de faire plus de 300 plaques-bandes pour concurrencer ces anciens clients. Et ce papa là disait, mais si nous, On ne peut plus faire ce que nous faisons ici. Comment est-ce que nous allons entretenir nos familles? Si vous êtes venu ici pour s'occuper de l'élevage des volailles, tant mieux qu'ils s'occupent de ça. Mais maintenant, commencez même à nous faire la concurrence. Moi, je crois que l'État congolais devrait être regardant sur cet aspect des choses. Il faut qu'il y ait des activités qui sont réservées aux nationaux pour permettre aux Congolais de trouver du travail. Parce que si les nationaux, si les étrangers viennent, on ne peut pas leur fermer la porte. Nous sommes, comment dirais-je, c'est la mondialisation, nous avons besoin des étrangers qui pour venir investir dans notre pays. Mais il faut qu'on puisse respecter les lois qui existent sur la protection de la main-d'œuvre locale.
Dans l'actualité, Madame Catherine Zouzouambombo, comment vous analysez toutes ces rencontres qu'entreprend le président de la CENI avec différents partis politiques du pays, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, concernant les calendriers électoraux? On sait que la Constitution prévoit les élections pour le mois de novembre 2011, mais une certaine opinion craint déjà que ce délai ne soit pas respecté. Comment vous réagissez à cela?
Moi, je n'ai jamais voulu faire les supplications. C'est pas mon fort. Moi, je pense que le pasteur Ngoyi Mulinda a prévu de faire un point de presse pour communiquer les dates. Moi, je pense que la sagesse me recommande d'attendre au lieu de commencer à spéculer maintenant. Il se peut qu'il ait le moyen de le faire. On ne sait pas. On a commencé à spéculer maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bon, ce que moi je peux regretter dans l'affaire, c'est parce qu'on a dit, le gouvernement veut commencer par dire que les élections, l'État congolais lui-même va financer les élections. Bon, avant de faire une telle déclaration, on aurait dû, a priori, être sûr que l'État pouvait avoir le moyen de le faire. Bon, lorsqu'on a voulu maintenant se rattraper pour demander à la communauté internationale de le faire, évidemment, ailleurs ça demande l'État, ça demande qu'il puisse aussi, que le gouvernement puisse aussi demander à leur parlement les autorisations pour le faire. Bref, mais je pense que en politique tout est faisable, ça dépend de la manière où on va, comment dirais-je, annoncer, où on va, comment dirais-je, inviter les gens politiques pour leur annoncer que ce n'est pas possible de faire ça. Si c'est un report de un mois, de deux mois, je pense que ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va faire que le pays puisse basculer dans la violence. Il faudra que la classe politique sache que c'est une grande responsabilité de vouloir aujourd'hui, où le pays traverse beaucoup de problèmes sociaux, de faire des déclarations qui risquent de compromettre cette sécurité que nous avons, cette tranquillité que nous avons. Parce que souvent, les politiques, nous avons tendance à nous enflammer devant des situations. Mais si le report nécessite, si c'est un report d'une année, ça sera inadmissible. Mais si c'est un report de un mois, de deux mois, si c'est prouvé que vraiment on va reporter les élections pour mieux faire, pour terminer les opérations qui sont encore d'identification. Il y a eu beaucoup de gens qui n'avaient pas fait les élections, qui ne s'étaient pas fait identifier en 2006. Donc il faudrait maintenant solliciter l'aval de tout le monde. Moi, je pense que la responsabilité exige à ce qu'on se mette d'accord sur un délai du temps qu'on ne peut pas dépasser. J'aime pas que personne ne refuse ça. Il refuse ce qu'on a d'autres idées derrière la tête. Et comme je ne suis pas dans le secret de Dieu, je refuse de ce qu'il y a.
Nous sommes à la fin de notre entretien, toujours en rapport avec les élections de novembre 2011. Avez-vous des ambitions?
Oui, j'ai des ambitions. Les ambitions que j'ai en ce moment, c'est de faire de mon entreprise une grande entreprise, comme elle a été avant les pillages.
Je parle des ambitions politiques. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter?
Non, je ne sais pas. Je pense que c'est trop tôt de commencer à spéculer sur ce genre de choses. Il y a un proverbe de Bangala que j'aime bien. Quand ils disent qu'un bois est dans ma colonie, mais la magasin est dans ma colonie. Pour le moment, je suis branchée sur les affaires, le reste, on verra plus tard.
Madame Catherine Zunzobombo, je vous remercie.
De rien, merci.
Le grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Catherine Zouzi Wambombo. Elle est femme politique, femme d'affaires et mère de famille. Merci à Dieudonné Nyangaza qui était à la mise en onde de micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à vous, auditeurs des Radio Okapi, qui nous suivez partout en RDC et à travers le monde.